On est reparti ? Alors, il y avait des questions assez intéressantes qu'on va du coup aborder, qui ne sont pas dans le diapo, mais par rapport, et là je vais peut-être l'aborder maintenant, parce qu'après on va plus partir sur l'exercice. J'avais des questions sur le jeûne. Le jeûne et sa tolérance. Alors, et c'est ce que je disais, le jeûne, il y a certaines personnes qui ne le tolèrent pas, ça peut arriver, c'est difficile. Je ne sais pas l'expliquer. Je ne suis pas certain qu'il y ait des études là-dessus qui peuvent expliquer pourquoi chaque personne ne tolère pas le jeûne, mais il y a des personnes qui ne tolèrent pas le jeûne. Ce qui peut être intéressant, et ça pour le coup c'est assez démontré, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est le fait d'avoir entre 12 et 16 heures de jeûne. Alors il faut boire, hein, vous boire de l'eau, mais 12 et 16 heures de sans aliments avant de reprendre un repas. Ça, c'est démontré qu'on a quand même un effet anti-diabète qui est assez intéressant. Et possiblement, ça c'est des études qui sont en cours, mais un effet anti-cancer, parce qu'à partir d'un certain moment, le corps va se détoxifier, pas trop ce terme parce qu'il est un peu employé à tort et à travers, mais il va avoir un effet un peu anti-cancer à partir de 14 heures, je crois, de jeûne. Donc en gros, ce qui se pratique le plus souvent, c'est que vous arrêtez le repas à 20 heures et vous reprenez à midi ou 16 heures. Vous prenez votre premier repas de la journée. Vous mangez donc pas le soir après 20 heures et puis vous mangez vers 14 ou 16 heures. C'est un jeûne qui est assez toléré, je trouve. Il est assez tolérable aussi sur le long cours. Vous pouvez jeûner comme ça tout le temps. Moi, c'est ce que je fais un peu un intermédiaire. Je mange jamais le midi. Je fais des journées continues au boulot et puis après je mange en revenant à 16-17 heures. Le problème du jeûne intermittent, et ça a été aussi démontré, c'est que les gens généralement ont faim quand même, hein, après 16 heures de jeûne. Et donc ils vont manger des mauvaises graisses. Ils vont un peu se jeter sur l'alimentation rassurante, l'alimentation qui va pas forcément être excellente pour leur corps, alors que c'est là qu'ils devraient manger des protéines, parce que bien souvent, avec l'activité, ce type de jeûne-là, on perd du muscle et on gagne du gras. Donc c'est important, ça peut être intéressant, mais il faut vraiment, vraiment bien le suivre. Et manger sur la période du coup de 14h à 20h, une quantité de protéines qui peut être importante et pas forcément rassurante, parce que quand vous rentrez de 16 heures de jeûne du boulot ou quoi, bah vous n'avez peut-être pas envie de vous jeter sur votre chou-fleur, quoi. C'est pas forcément le plus rassurant et le plus gratifiant. Donc ça peut être une très bonne solution, de manière, voilà, sur quelques jours, mois, voire années, mais ça doit être bien fait pour ne pas perdre de muscle. Parce que c'est ça le risque. Et justement, ça fait une chouette transition par rapport au rapport, notre rapport à l'alimentation. Quel est votre rapport à l'alimentation ? Là, j'aimerais un peu votre avis. Un petit peu là-bas, je ne vais pas beaucoup là-bas, je suis beaucoup là. Je vais vous interroger. Pourquoi est-ce que vous mangez ? Le plaisir, ok. Tu manges tes émotions, ok ? Pour l'énergie, pour vivre, alors merci, parce que c'est quand même la base. Ok. Le social, ouais, convivialité, bon moment. Ok. Le réconfort, exactement. Alors, j'aime pas du tout ce terme en conscience, mais là, je trouvais qu'ils allaient, ça, parce que c'est un terme très New Age, il faut tout faire en conscience maintenant. Mais manger en conscience, ça ne me paraît pas idiot. Je ne sais pas si vous êtes de cette team-là, mais moi, je mange beaucoup debout. Je prends un truc dans le frigo, je rentre du boulot, je prends un truc et je mange debout. C'est compulsif. C'est presque... Vous voyez ? Et en fait, l'idée, c'est de... quand vous mangez, pourquoi est-ce que vous le faites ? Les repas qu'on a vus juste avant, ils vous apportent globalement une bonne base pour votre métabolisme énergétique et puis pour l'exercice physique qu'on va voir après, mais il ne vous apportera pas forcément le réconfort que vous voulez quand vous allez rentrer du travail. Donc ça, c'est important de trouver des petites feintes pour pas rentrer, vous rentrez du boulot puis vous sautez sur la nourriture réconfortante qui est souvent grasse, salée, sucrée. Et donc le gras, c'est la saveur umami. C'est une saveur qui... c'est un nom asiatique, mais ça veut dire c'est le côté gras. Il y a le sucré, le salé et l'umami. Et donc, moi, c'est vrai que je recommande de s'asseoir, de prendre le temps, de préparer son repas, même si on a très très faim, de savourer. J'ai mis des baguettes, parce que c'est un conseil que je donne à certains patients qui ont une tendance à tout ingurgiter en moins de 5 minutes. Prenez des baguettes. Et la plupart du temps, ça marche très très bien, parce que moi, j'arrive pas à tenir du tout. Et donc, c'est beaucoup plus lent de manger avec les baguettes. Bon, après, voilà, si vous êtes un maître baguette, bon, ça marchera pas pour vous, mais pour la plupart des gens français, ça fonctionne. Et en fait, c'est trouver des petits tips comme ça. La sensation de faim trop importante, elle est très dangereuse. Si vous faites vos courses quand vous avez faim, vous allez acheter n'importe quoi. Ça, c'est certain. Et en fait, si vous rentrez d'une activité alors que vous avez faim, vous allez aussi faire n'importe quoi. Quand vous avez trop faim, il ne faut pas manger. C'est contre-intuitif, mais c'est vraiment ça. Vous prenez un coup d'eau, vous allez sortir un petit peu, vous allez changer d'air, et vous revenez vers le repas après. Donc c'est ce que je mets, il faut temporiser. Manger ses émotions, c'est complètement ça dans notre société. L'alimentation est le principal antidépresseur des Français. Une certitude. Vous mangez parce que vous êtes stressé, vous mangez parce que vous avez peur, vous mangez parce que vous êtes fatigué. Et là-dessus, il n'y a que la substitution qui peut vous aider. C'est pas normal. Oui, c'est réconfortant, mais ça ne peut pas être le seul moyen pour vous de ne plus stresser. Substituer, ça peut être plein de choses. Là, j'ai un petit papy qui tape un sac de frappe. Je sais que j'ai des patients qui font ça. Moi, j'aime bien faire ça. Quand il y a du stress, qu'il y a comme ça, c'est de sortir, d'aller marcher ou d'aller taper sur quelque chose de non vivant. C'est assez intéressant. La fin de la phrase est importante. Donc, substituer. Trouver des choses qui vont aller sécréter des hormones qui vont vous apporter ce réconfort, entre guillemets, que l'alimentation va vous apporter. La dopamine, l'endorphine, ce genre de choses. C'est pour ça, d'ailleurs, que le portable peut être aussi un relais là-dessus maintenant. Le portable vous sécrète les mêmes hormones de dopamine avec les scrolls. Pareil, substituer. Pas forcément. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être sur le portable de temps en temps, mais vous aurez les mêmes hormones alors que vous ne faites rien que si vous faites de l'activité, de la dopamine, ce genre d'activité-là. Donc substituer. Et puis l'ennui. Alors c'est aussi. Enfin, moi en tout cas, je pense, mais je pense pas que moi. Quand on s'ennuie, on mange. Bah du coup, il faut s'occuper. Là-dessus, j'ai pas de secret. Alors maintenant, j'aimerais que vous notiez un petit coup. Vous avez une présentation un petit peu de l'assiette type pour être en bonne santé, des collations qui vous permettent d'avoir les apports suffisants. Et j'aimerais que vous me disiez les freins que vous voyez à cette alimentation-là. Qu'est-ce qui va vous empêcher de manger comme ça? Qu'est-ce qui va vous dire en rentrant ce soir, le docteur il est bien sympa, mais ça j'y arriverai pas pour cette raison-là? Parce que j'aimerais pouvoir essayer d'y répondre en tout ou partie, mais qu'on puisse noter ça. Donc vous avez, je sais pas, une ou deux minutes pour noter, et puis on fera un petit tour de table après. Est-ce que vous avez des idées de freins? Le sang? Le temps, ok, le temps. La sociabilisation. Donc le fait d'aller manger dehors, au restaurant quoi, grosso modo. Quand on est avec du monde, on mange pas forcément équilibré. Ok, donc sociabilité, plus simple, plus pour le côté convivial. Ok. L'envie, ok. La motivation. Les idées, ok. Idées, motivation, le plaisir. Le choix, ouais, avoir la possibilité ou pas de... Ok. La fatigue, ouais. Donc des idées, ouais. Le goût, ouais. Le prix, la fatigue, l'envie. Ah ouais. Donc le fait d'être, dans la communauté, on va dire, mais effectivement avec d'autres méthodes, ok. Ok, pas d'autres idées là ? De ce côté-là ?
Troubles.
Alors ça, c'est plutôt le côté la pathologie, oui, évidemment. Le goût et le fait de ne pas cuisiner, ok ? Parce que vous ne savez pas ou parce que vous n'avez pas envie ? L'envie, ok ? La flemme. Le goût, ne pas savoir. La culture, ok. Simplicité. Le prix, ça a été dit aussi, ouais, c'est ça, ça rejoint. Le fait d'être trop strict, ok. Ok. Le réconfort. La motivation. La confiance en quoi ? Dans ce que tu peux faire ? Ok, donc plus sur les idées, plus sur quelque chose comme ça ? Les compétences ? D'accord. Le côté, est-ce que je vais réussir à faire ça ? Ok. Les saisons ? Oui, effectivement. Les saisons, ça peut être difficile. Les imprévus, ça rejoint à la fatigue et tout, oui, mais effectivement. L'être en déplacement, complètement. Le temps, la motivation. Des ingrédients à dispo, oui, ouais, typiquement. Et ça, c'est. Effectivement, et ça, c'est quelque chose qui m'a déstabilisé quand j'ai essayé des recettes de livres. En général, ils vous sortent des graines qui viennent du bout du monde, vous n'arrivez pas à les trouver. Mais c'est où, madame, s'il vous plaît ? Alors, moi, j'en avais quelques-uns, effectivement. Je n'ai pas tout, on va y revenir. Le budget. Alors, le budget, c'est un... faux problème. C'est un vrai problème pour certains, hein, le budget. Mais dans l'alimentation équilibrée, je pense que c'est un faux problème dans le sens où on achète beaucoup de choses superflues chères et peu de choses de qualité qui sont aussi chères. Hein, la viande, le poulet bio, faut y passer un bras. Hein. Mais l'idée, c'est de plus d'accentuer la qualité que la quantité. Sur les repas que je vous ai mis juste avant, c'est 4 euros par personne par repas en surgelé. Je pars en surgelé. C'est beaucoup plus cher que si vous achetez vos légumes vous-même. Mais j'ai fait pour justement le côté simple, par personne en bio. Donc vous diminuez quasiment par deux si vous ne mangez pas bio, ce qui sera déjà très bien, parce que tout le monde ne peut pas avoir ce budget-là. Mais on est sur un budget moyen qui n'est pas si cata que ça. 4 euros par personne par repas, c'est plutôt un budget médian bas dans l'alimentation française. Le temps, alors le temps, ça est revenu beaucoup de fois, et bien très honnêtement, pour le coup, ça c'est un réel faux problème. C'est 10 minutes de préparation. Hein. Un surgelé équilibré, vous mettez ça dans une poêle, vous mettez à chauffer ou à la vapeur, vous mettez à chauffer vos glucides en même temps, et puis enfin, à la vapeur, tout va. Tout est fait tout seul. Quoi. Donc le temps, c'est pas un problème. Ce qui va être un problème, c'est la monotonie. Ça, je vous rejoins à 200%. Parce que l'assiette que je vous ai présentée, c'est pas Philippe Etchebest. Hein. C'est très monotone, donc il faut trouver des petites solutions pour essayer de le rendre moins monotone. C'est là où on va faire appel aux épices, beaucoup, beaucoup, tout ce qui est épicé, et pas aux sauces. Ce qui rend le plat, les plats souvent intéressants, ça va être les sauces. Sauf que c'est généralement pas très bon au niveau des apports. Ouais. Donc c'est là où on va beaucoup épicer, en fait. On va découvrir des épices, on va découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger en termes d'épices pour agrémenter les goûts. Alors ça, je vous laisserai découvrir, mais il y en a tout un tas. Hein. Entre les herbes de Provence, qui sont, moi, je trouve hyper rassurantes, le curry, les poivres, les différents piments, en fait, vous ouvrez voilà, une porte qui est généralement pas ouverte. Je trouve qu'on connaît peu les épices en France. Et pourtant, voilà, ça permet en fait d'agrémenter ces aliments-là, qui sont effectivement, quand vous cuisez un aliment à la vapeur, tout a un peu le même goût. Alors plus vous allez faire vous-même avec des choses qui sont sorties du jardin et qui sont fraîches, gorgées de soleil, mieux ça ira. Entre une carotte qui a été faite chez vous et puis à la sueur de votre front, et puis une carotte que vous achetez en surgelé, c'est pas la même chose. Mais n'empêche que si vous n'avez pas le temps, comme moi, de faire tous les jours un repas équilibré, le surgelé marche très bien. Et c'est tant qu'il n'est pas cuisiné, parce que c'est là où vous avez tiré une balle dans le pied, c'est s'il est déjà cuisiné, vous foutez du gras partout, du sel, c'est une catastrophe. Mais en temps de préparation, c'est pas énorme. Et alors, je n'aime pas. Alors ça, pour le coup, je suis désolé pour vous. Parce qu'il y a une incompatibilité physique au fait d'être en bonne santé et de ne pas aimer les légumes. C'est ce que disent vos enfants. C'est que vous ne pouvez pas être en bonne santé si vous ne mangez pas sainement. Et comme on a vu que l'une des bases principales, c'était les légumes, des viandes plutôt maigres et des glucides plutôt complets, si vous me dites ben, « j'aime pas ça, ça, ça », et que je vous dirais ben, « c'est un choix ». Je suis désolé d'être franc comme ça. Hein. Mais il y a un moment donné, effectivement, vous n'êtes pas obligé d'être en bonne santé. Personne ne vous forcera, c'est entre vous et votre corps. J'ai inversé un peu plus tard là-dessus. Mais c'est vraiment important. C'est comme le fait de dire, et on le verra après dans l'activité physique, je ne peux pas parce que j'ai trop de douleurs. Oui et non. Le fait de faire des choses à votre rythme, d'abord assistée, d'abord douce, ça va améliorer les douleurs. En fait, c'est une progression. Ce qui ne va pas, c'est quand on essaie d'avoir des objectifs trop importants, trop hauts, trop vite. Mais si on est progressif, on y arrive. Alors, oui, c'est ce fameux verset-là. Il y a la suite après. 1 Corinthiens 9, verset 25. « Tous ceux qui combattent s'imposent toutes espèces d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » Alors, ce verset-là, il est, entre guillemets, sorti de son contexte. C'est-à-dire que là, il parle beaucoup du domaine spirituel. Mais je pense qu'il y a une partie applicable à notre façon de vivre, et que c'est pas pour rien que notamment dans le catholicisme, il y a dans les fameux péchés capitaux, il y a la gourmandise. Je dis pas que c'est ça, c'est la vérité, mais je dis qu'ils avaient peut-être compris une chose, c'est que l'abondance et le fait de ne pas s'abstenir de certaines choses peut nous rendre malades, peut nous détourner notre corps de ce que Dieu veut pour nous. Et notamment la bonne santé. Alors, et s'abstenir, c'est dur. Moi, j'aime bien les chocolats. L'activité physique. Dans Proverbe 31:17, sur la femme vertueuse, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, avec la petite activité qu'on fait. 1 Corinthiens, c'est la suite du verset. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé et après avoir prêché aux autres. C'est tout le début du verset. Il tient son corps, il le traite durement et le tient assujetti. Alors, pourquoi faire du sport ? Pourquoi est-ce que... Alors, faire du sport, j'aime pas ce mot. Je vais essayer de corriger mon vocabulaire. De l'activité physique. Et ce que je vais vous présenter là, ça va être, pour moi, le prérequis à une bonne santé d'une part, mais à tout autre sport et à toute autre activité. Si vous ne maîtrisez pas ces différents mouvements qu'on va voir, vous aurez du mal. Vous serez limité à un moment donné de votre vie, à un moment donné ou à un autre, vous serez limité. Donc pourquoi ? Pour soi et pour les autres. Et j'aime beaucoup le pour les autres. Donc ça, c'est une petite photo, si vous reconnaissez, mais c'est une photo de Enzo qui porte la petite. Eh bien, n'empêche que cette petite a pu participer à la CBM Express, Campus Express, parce qu'il a pu la porter. Donc pour soi, pour sa propre santé, la mobilité, la densité osseuse, le sommeil, l'humeur, le système cardiovasculaire, vous avez plein d'effets bénéfiques démontrés scientifiquement, il n'y a aucun doute, sur l'activité physique, le fait de bouger. Mais aussi pour les autres, le fait de servir. Vous avez le salut scout juste en bas à droite, ça je ne me refais pas, mais c'est le fort qui protège le faible, le pouce sur l'auriculaire, le fort qui protège le faible. Et je pense vraiment qu'on est aussi appelé à assujettir notre corps pour s'en rendre maître et pas être esclave de notre corps. Et personnellement, en faisant cette formation-là, je me suis dit, mais dans combien de situations de la vie quotidienne je suis esclave de mon corps ? J'ai envie de monter à 200 mètres au-dessus de chez moi, il y a une belle pente. La vache, les premières fois que j'ai fait, parce que j'essaie d'appliquer ce que je vous dis, c'est important. Les premières fois, là, il y a 2-3 mois, quand j'ai commencé vraiment à mettre en place ce protocole, j'avais les poumons dehors. Hein. Et puis les jambes qui ne me tenaient plus, et puis tout, enfin, ça n'allait pas. Et je me suis dit, bon, laisse tomber, c'est bon. Mais je me suis dit, mais en fait, je suis esclave. Je suis esclave de mon propre corps. Alors, il y en a qui le connaissent de manière douloureuse, c'est les personnes qui sont malades. quand on est malade, on est esclave de sa, d'une partie de son corps. Et les, alors, une des pires maladies, c'est le Locking syndrome. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une maladie qui vous verrouille. Vous êtes conscient, parfaitement orienté, cohérent, et vous ne pouvez bouger que les yeux. C'est une pathologie bon, qui est gravissime, évidemment. Mais parfois, par nos choix, par nos habitudes, on en arrive à être en partie, dans certains domaines, esclave de notre corps, de ne pas pouvoir faire ça. Et je pense que dans le service, ça peut nous bloquer. Ça peut, là où Dieu nous appelait peut-être à faire une activité X ou Y avec telle personne, et bien on ne pourra pas, on ne sera pas en capacité physique de le faire parce que nos choix antérieurs nous ont bloqués. Allez, on passe sur les deux grandes fonctions que j'aimerais développer avec vous, et c'est mon avis les fonctions les plus importantes pour le corps humain. Le corps humain, c'est une machine qui est incroyable, elle est merveilleuse, vous avez des centaines de muscles qui ont tous leur... Enfin, physiquement, physiologiquement, c'est une merveille. Il est fait pour travailler. Les muscles sont faits pour travailler, plus on les travaille, plus ils sont performants, plus ils ont envie de travailler. Le cerveau adore ça. C'est vraiment quelque chose, l'exercice physique, en fait, le fait de bouger, c'est quelque chose qui est complètement naturel. Et au jardin d'Éden, Adam cultivait le jardin. Il n'était pas posé dans un canapé. Hein. Il cultivait le jardin. Je ne sais pas de quelle manière Dieu avait introduit la notion de fatigue. Peut-être qu'il n'y en avait pas. La Bible dit qu'il n'y a plus de fatigue après. Mais est-ce qu'on parle de la fatigue désagréable ou est-ce qu'il y a une saine fatigue, le fait d'être fatigué mais content d'avoir travaillé? Ça, c'est difficile. Je n'ai pas la réponse là-dessus. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que l'activité physique, le fait de bouger, est naturel et je pense que c'est le plan de Dieu pour nos corps, pour le temple que l'on est. Donc, marcher, c'est la base. Et se hisser, pour moi, c'est aussi la base parce que ça vous débloque dans plein d'autres domaine de votre vie. Alors voilà les objectifs auxquels j'aimerais arriver, moi, et j'y suis très très loin, les amis, mais je pense que c'est des objectifs qui sont utiles à une bonne santé. Ce que je vous fais là, c'est une sorte de programme, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais si vous voulez vous l'approprier, c'est avec grand plaisir, vous aurez le PowerPoint et on peut en discuter après, même plus tard, dans les mois qui viennent. Mais dans l'idée, c'est qu'on a dans l'effort de se hisser, vous avez vu un pompier, alors c'était il y a très longtemps, un pompier de Paris, qui essaie de faire la planche, on appelle ça. C'est-à-dire de se hisser au-dessus d'une planche, et s'ils ne font pas ça encore aujourd'hui, pompier de Paris et de Marseille, s'ils ne font pas la planche le matin, ils ne partent pas en opération. Leur corps doit être suffisamment apte pour se hisser, et c'est un signe pour eux que, ok, ils sont en forme, ils peuvent aider les autres. Ils peuvent aller au secours des autres parce qu'eux ne vont pas se mettre en difficulté. Il n'y a rien de pire qu'un coéquipier qui commence à être pas bien au milieu d'un feu. Hein. Ce n'est plus une victime que vous allez secourir, c'en est deux. Donc l'idée derrière ça, elle est assez cohérente et je trouve que les pompiers ont assez raison de développer ça chez eux, c'est leur métier. Mais au quotidien, on peut le faire aussi. Pourquoi la traction ? La traction, c'est le fait de pouvoir se hisser jusqu'à hauteur de poitrine. Ça, c'est une traction. On va déclencher beaucoup de muscles au niveau des épaules et au niveau des dorsaux. Donc ça va développer le haut du corps. Ce n'est pas masculin. Alors là, c'est une photo d'homme, mais ce n'est pas spécifique aux hommes. Les femmes, je pense qu'il y a tout intérêt aussi à maîtriser ces choses-là. Parce que le jour où vous avez besoin de monter un muret qui se situe à peu près comme ça, pour passer derrière au lieu de faire tout le tour, pour X raisons, un gamin qui est en difficulté, un truc derrière vous qui vous court après... Il y a plein de raisons qui peuvent faire que vous ayez besoin un jour de monter un muret qui se situe à 2 mètres de haut. Ben aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse tous le faire. Pourtant, c'est naturel. Donc la traction, ça va vous permettre de vous hisser. Ensuite, la pompe, c'est le fait de pousser. Descendre et c'est un effort de pousser. Le squat, on en a parlé, c'est un effort au niveau des jambes, c'est le fait de se relever. Vous savez, c'est ce que je travaille beaucoup avec les patients qui sont âgés, c'est le fait de pouvoir se relever. C'est une catastrophe quand vous tombez et que vous êtes désadapté sur le plan musculaire à partir d'un certain âge. C'est un peu l'équivalent d'une tortue. On n'arrive plus du tout à se relever. Une patiente tombe par terre et leur corps n'est plus adapté et ils n'arrivent plus à se relever. Et ça, c'est peut-être très grave parce que si la famille n'est pas là, s'il y a du retard à la prise en charge, on peut mourir de ça simplement, entre guillemets, parce qu'on n'a pas pu se relever. Et nous, c'est un des objectifs de cette année à la Maison de Santé, c'est d'apprendre aux personnes à se relever. C'est tout bête, hein. Mais ça nécessite de se relever, pour une personne âgée et pour tout le monde, hein. Ça nécessite des efforts de pousser, parce que généralement, vous allez devoir vous redresser le torse, et des efforts d'équivalent du squat, de pousser sur les jambes. Et éventuellement d'accrocher le buffet, parce que s'il ne tombe pas, pour essayer de se faire aider avec les mains. Je ne vous parle pas, là, avec ce programme-là, je ne vous parle pas de performances qui vont... Ce n'est pas Usain Bolt, ce n'est pas The Rock, on ne deviendrait pas monstrueux. C'est vraiment être fonctionnel, ce qu'on appelle être athlétique, ce qui est, à mon avis, la base du corps humain. Je remets la phrase, la transformation ne se trouve pas sur la ligne d'arrivée, mais dans chaque pas qui y conduit. Moi, si je n'arrive pas à ça à la fin de ma vie, ce n'est pas grave. Hein. Mais le logiciel que j'aurai mis en place pour le faire, bah, petit à petit, va me faire évoluer vers quelque chose de plus fonctionnel et de plus adapté pour ma santé. Le gainage, bah, vous l'aurez compris, hein, le gainage, ça porte bien son nom, c'est le fait d'avoir des muscles abdominaux et dorsaux suffisamment puissants pour faire la jonction entre le haut du corps et le bas du corps. C'est hyper important. Le record du monde, je crois qu'il est à 12 heures. Ouais. Il était à 9 heures et à 12 heures, et la personne avait 60 ans. Ouais. Fou, hein ? Et c'est un Marseillais, peut-être pour ça. Dips. Le dips, c'est l'effort de pousser. C'est une fois que vous êtes comme ça sur le muret, bah, va falloir passer les bras et pousser. Ça, c'est le dips. Alors, sur un muret, l'avantage, c'est que vous pouvez pédaler avec les pieds, puis ça vous aide. Mais dans l'idée, c'est vraiment pas quelque chose... Enfin, à mon sens, et j'ai essayé de me renseigner beaucoup sur en préparant cette présentation, pourquoi est-ce que j'aimerais qu'on fasse ça, vous convaincre du moins d'essayer de faire ça, parce que je pense que c'est des mouvements naturels. C'est pas, j'ai pas pris les exercices de... Moi, je suis un grand admirateur des gens qui pratiquent la calisthénie. Je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est des athlètes qui vont être que au poids de corps et qui vont faire des figures. Le drapeau, c'est une figure emblématique où ils sont sur le côté puis ils sont tout droits. Vous avez vu ? Ouais. Ça, c'est une figure emblématique de la calisthénie. Je pense que ça, au quotidien, c'est pas spécialement utile. On peut débattre. Mais c'est pas quelque chose. Mais voilà, il faut une base comme ça, minimum, pour pouvoir espérer un jour accéder à ce genre de figure. Et j'ai envie de dire un peu dans tout. Vous êtes footballeur, vous êtes. Mais vous êtes au travail et puis on vous demande de porter des charges. Combien de personnes viennent me voir et ils ont mal aux épaules ? La douleur d'épaule, c'est un des principaux motifs de consultation. La douleur d'épaule est là parce que vous n'êtes pas assez musclé. C'est tout. Il n'y a pas de secret là-dedans. C'est que votre employeur vous demande de porter des charges de 10-20 kilos dans des rayons, admettons, mais vous n'êtes pas entraîné pour ça. Et donc, mécaniquement, votre muscle, il va à un moment donné, avec la répétition, il va serrer, il va plus pouvoir. Votre tendon va donc prendre le relais. Or, un tendon qui prend du relais, il va s'irriter. Et on est sur une tendinite, arrêt de travail et tout le toutine. Il n'y a que les médecins qui n'ont pas besoin de nous. Les progressions. Moi, ce que je veux vous présenter, en tout cas, et j'espère vous débloquer chez vous, c'est qu'il n'y a pas d'exercice physique compliqué. C'est une progression. Si vous n'arrivez pas à marcher 45 minutes en montant 200 mètres de dénivelé, ce qui est l'objectif, à mon avis, qui me paraît cohérent avec une bonne santé, c'est pas grave, mais c'est pas pour autant qu'il faut rien faire. Il faut commencer par la marche rapide, le fait de marcher, simplement marcher. Marcher 30 minutes, ou 15 minutes déjà. Oui, mais j'ai mal au genou. Oui, mais vous avez mal au genou. Alors après, je vous conseille de faire des IRM si ça persiste, hein. Il y a peut-être un ménisque qui se balade. Mais si le médecin a dit, bah, écoutez, non, il faut faire de la kiné, il faut rééduquer, c'est ça, la rééducation. La kiné va voir une fois ou deux par semaine, mais c'est complètement insuffisant. C'est pas ça qui va faire le job. C'est vous qui allez faire le job. 15 minutes, puis 30 minutes, et vous verrez que les douleurs vont s'estomper depuis que je marche un peu plus, de cette manière-là. J'ai plus mal au dos, ou très, vraiment beaucoup moins mal. Les patients me le disaient. Moi, je leur disais, c'est super. Mais effectivement, ça se vérifie. Bon, c'est démontré par à peu près toutes les études, hein, c'est pas quelque chose que j'invente. Mais la marche, c'est quelque chose de basique, de fondamental. Et on peut progresser. Vous commencez par 15 minutes, hop, c'est très bien déjà. Les deux petites références au-dessus, 6 jours par semaine, ça se comprend assez facilement. Par contre, 70% FCMT, ça c'est peut-être plus dur à comprendre. Au début, le but n'est pas là. Là, c'est vraiment si vous vous donnez comme objectif de progresser, il va falloir se mettre là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'il faut demander à votre corps suffisamment d'efforts. Et un moyen de le contrôler, c'est de regarder sa fréquence cardiaque. La FCMT, fréquence cardiaque maximale théorique, c'est un calcul, c'est 220 moins votre âge. Donc moi, c'est 190. Allez, je suis gentil avec moi. 185, grosso modo. Je prends 70% de ce 185, et là, il me faut la calculette, mais ça doit tomber à 120, quelque chose comme ça. Fois 185. Vous pouvez faire le calcul pour vous. Hein. 70 fois votre fréquence cardiaque théorique divisée par 100, moi c'est 129. 220 moins l'âge, donc 220, moins votre âge, et ça vous donne votre fréquence cardiaque maximale théorique. C'est là où votre cœur n'est pas censé aller au-dessus sans subir des dégâts. En fait, c'est très dur, hein, de 200 pour les plus jeunes, c'est 200. Et puis plus on prend de l'âge, moins cette fréquence cardiaque théorique est élevée. Et vous vous mettez entre 60 et 70% de cette fréquence cardiaque. Grosso modo, vous allez être à peu près entre 110 et 120 battements par minute. Alors ça, c'est facile de le voir. Vous avez maintenant des montres connectées ou des montres qui vous donnent le pouls. C'est assez facile et assez accessible. Et puis une méthode qui est assez utilisée aussi, c'est le fait de parler. Si vous pouvez parler en marchant, c'est que vous ne marchez pas assez vite. Si vous pouvez chanter, si vous pouvez chanter, c'est que vous ne marchez pas assez vite. Si vous pouvez parler, c'est que c'est pas mal. Si vous ne pouvez plus parler, c'est que vous êtes trop dans l'effort. En gros, il faut pouvoir parler quand vous faites l'exercice, mais pas chanter. Bon, celle-là, elle est dure parce qu'à mon avis, c'est moins précis. Pasteur Joe, merci pour cette intervention. Donc du coup, vous devez pouvoir parler, mais pas chanter. Mais si vous avez la moyenne de mesurer votre pouls, ça va vous aider beaucoup parce que dans tous les exercices, vous allez pouvoir adapter l'exercice. L'idée, c'est que si vous marchez 15 minutes tous les jours et vous commencez à progresser, mais qu'au final, vous allez construire du muscle, 15 minutes, ça sera peut-être plus assez. Il faudra faire un peu plus et surtout peut-être un peu plus vite parce que votre cœur, il va s'habituer et il va être beaucoup plus tranquille pour un même effort. Donc ça, ça peut être intéressant pour la progression. Est-ce que pour la marche, vous avez des questions ? C'est 220 moins l'âge, maximal théorique. Alors, les tractions. Encore une fois, ce n'est pas des exercices qui sont là par hasard. C'est la façon de se hisser. Et c'est nécessaire dans plein de domaines de la vie. Vous y penserez la prochaine fois que vous serez confronté, mais honnêtement, c'est assez fréquent. Qu'est-ce que sont les australiennes ? Les tractions australiennes, alors je ne pouvais pas faire une team traction aujourd'hui, parce que là, pour le coup, c'est le seul qu'il faut un petit peu de matériel. Il faut une barre ou un arbre avec une branche. La traction australienne, c'est le fait d'être les pieds au sol et d'être incliné. Vous voyez l'idée ? Donc vous êtes les pieds au sol, vous avez votre barre, par exemple, à niveau du torse, et puis vous allez vous incliner plus ou moins et faire ce mouvement-là. Mais toujours les pieds au sol. La traction australienne la plus dure, c'est la traction australienne à l'horizontale. Donc vous êtes complètement comme ça, et vous tirez votre buste, sachant que vous avez les pieds au sol, donc ce n'est pas tout votre poids. Donc ça, c'est la progression sur l'australienne. Quand vous êtes à 15 répétitions en inclinaison comme ça, et bien vous essayez 15 répétitions où vous intégrez un peu plus en étant plus bas, jusqu'au moment où vous êtes à 15 répétitions en étant à l'horizontale. Et puis après, on fait de la suspension active. Vous allez vous tenir en l'air comme ça, 30 secondes. Alors active, ça veut dire qu'on engage les épaules. On va descendre et on va essayer de tenir un crayon qui se situe là. Ne faites pas, ça ne marche pas toujours, mais l'idée c'est ça, c'est d'aller vraiment engager les épaules et de tenir 30 secondes. Alors au début, c'est 10 secondes, 5 secondes, c'est pas grave. Mais c'est les deux prérequis pour ne pas vous blesser. Et après, on passe aux exercices suivants. Les tractions négatives, c'est le même principe qu'avec la pompe que j'ai montré tout à l'heure. Vous commencez en haut, ça vous hissez, vous sautez, et vous allez ralentir la descente. Vous pouvez rester 2 ans hein, comme ça, et puis pas arriver à faire des tractions, c'est pas grave. C'est entre vous et votre corps, ce que fait le voisin, on s'en fiche. Et vous ralentissez la descente, pour qu'elle fasse entre 10 et 30 secondes. Là j'ai mis 7 fois 10 secondes. Les tractions ensuite, une fois que vous avez des tractions négatives, vous verrez que naturellement, de remonter, ça va être facile. Alors ça, c'est un peu contre-intuitif, mais le corps adore ça. le fait de lutter contre la pesanteur favorise le mouvement inverse, donc le fait de tirer. Pareil pour les pompes. On en parlait des pompes. D'abord les pompes surélevées, c'est ce que moi je fais. Sur une table, et puis si c'est trop dur sur une table, vous prenez un bar plus haut. Plus c'est haut, plus c'est facile. Contre un mur, ça ne marche pas. C'est pas assez. Mais il faut trouver l'inclinaison qui vous convient. Et puis, petit à petit, baissez cette inclinaison jusqu'à arriver au niveau du sol, où là, vous allez commencer les pompes à genoux. Et puis les pompes négatives, comme on a dit tout à l'heure, puis les pompes normales. Et ça, c'est l'effort de pousser. C'est utile tout le temps, cet effort-là. Ah oui, alors après, évidemment, là je vous parle d'une... Et d'ailleurs, il faudrait peut-être le préciser, la pompe, c'est dos droit. Il faut toujours être gainé. Dans tous les exercices que vous faites, vous contractez les abdos, les muscles dorsaux, et vous devez être toujours droit. Si vous demandez à quelqu'un de vous regarder, il doit pouvoir vous voir, vous êtes rectiligne. Il n'y a pas un creux qui se forme au niveau du dos, sinon c'est que l'exercice est trop dur pour vous. Donc il faut faire plus facile. Dos droit. Dans tous les exercices, le pistol squat est une exception parce que vous allez être un peu pour l'équilibre en avant. Mais le squat normal, c'est dos droit. Je ne suis pas comme ça quand je fais. C'est vraiment le dos droit. Et ça me permet de ne pas décoller les talons. La progression, le demi-squat. Mais ça, c'est vraiment ce que j'apprends à mes patients de 90 ans, à l'EHPAD. L'idée, c'est d'aller essayer de ne pas se jeter dans la chaise. Ce n'est pas l'idée. C'est d'aller remonter. Et si c'est trop dur de remonter, on se fait aider pour la monter. Et par contre, on essaie de descendre le plus lentement possible. Hop. Et mes patients, je leur dis, vous faites ça tous les, toutes les heures. Vous êtes retraité, vous avez le temps. Bon, des fois, ils me font des yeux comme ça, ils sont fâchés. Mais c'est pas tout à fait faux. Et puis alors après, pour les patients qui ont encore plus de mal, ils ont peut-être des canapés ou des... Ah, typiquement là, c'est plus haut. Eh ben, je commence peut-être un peu trop haut, mais je commence comme ça et puis j'y vais doucement. C'est pas grave. Encore une fois, c'est l'habitude et le fait d'habituer son corps à bouger. Peut-être que vous ne ferez jamais de pistol squat et peut-être que je ne ferai jamais non plus, mais ce n'est pas l'objectif final, c'est le trajet, comme je le disais. Et donc ces patients qui vont bouger petit à petit, mais ils auront moins d'appréhension à bouger. Une des principales mortalités chez les patients qui ont chuté une fois, c'est la rechute. Avec le cerveau qui a une appréhension énorme à remarcher. Ce qu'on appelle le syndrome post-chute. Et ça, chez les personnes âgées, c'est très fréquent. Mais quelqu'un qui a l'habitude de bouger, même sans développer des efforts faramineux, mais il aura beaucoup moins de risques d'avoir ce syndrome-là. Le gainage, bon, ça pour le coup, je ne le présente plus, hein, c'est connu. Soit sur les genoux au début ou les pieds écartés, ça facilite les choses. Jusqu'à tenir 60 secondes, tranquillement. Et puis, après, c'est du gainage, hein, 60 secondes, ça tremble de partout, c'est normal. Il faut juste garder bien le dos droit, puis quand vous ne pouvez plus, vous arrêtez. Faut pas creuser, dès que vous creusez, c'est pas bon, si vous faites mal l'exercice, vous allez vous laisser. Vous restez bien dos droit, comme ça. Et alors le dip, c'est l'effort de pousser, on est sur un exercice un peu comparable aux pompes, mais sur d'autres groupes musculaires, vous êtes les pieds dans le vide, et vous allez pousser... pour vous relever. Et ça, c'est un effort qui est quotidien. Et là, une des méthodes, si vous n'avez pas de matériel, c'est les chaises ou les accoudoirs. Les accoudoirs de canapé. Et effectivement, si vous allez plus loin, ça, c'est facile, c'est deux chaises. Après, si vous voulez aller plus loin, il va falloir un tout petit peu de matériel. La calisthénie, c'est un des sports les moins chers. Il faut des chaussures pour la marche. Et des anneaux ou une barre de traction. Vous mettez dans l'encadrement d'une porte. En plus de ça, ça nourrit beaucoup de vidéos rigolotes sur Internet. Mais vous la fixez bien et vous pouvez faire facilement ces exercices-là. Moi, à la maison, j'ai une barre de traction que j'ai mis au-dessus et des anneaux. Je ne suis pas encore capable de faire les tractions comme ça. Donc, je n'utilise pas, elle est là pour décorer pour l'instant, faire semblant. Les gens qui viennent à la maison, waouh, tu fais du sport, ouais. Non, j'utilise que les anneaux pour l'instant. Que les anneaux qui arrivent à peu près à cette hauteur-là, qui me permettent de faire ces exercices-là, et puis des distractions australiennes. Moi, j'en suis là. Ça me va. C'est entre moi et moi. Alors, comment est-ce que on s'entraîne? Moi, j'ai fait 3 méthodes parce que je me suis, en discutant de ça avec mes patients, la plupart me disent qu'ils n'ont pas le temps. Et c'est là où vous sortez votre... comment on appelle ça? Le calendrier que vous avez fait, les activités. Et dans ce calendrier-là, je vais vous demander une chose que vous n'avez peut-être pas prévue avant, mais vous allez ouvrir votre téléphone et vous allez regarder le nombre d'heures d'écran. Alors vous allez enlever tout le nombre d'heures d'écran qui est en relation avec votre travail, évidemment, pour ceux qui ont une activité qui est en lien, enfin, dans laquelle ils utilisent l'écran. Donc sur votre planning, normalement, vous avez normalement une section sur votre travail. Vous êtes levé le matin, là vous avez travaillé, là vous avez... Et j'aimerais que vous souligniez les moments en vert, les moments où vous avez fait de l'activité physique. On parle d'activité physique comme on l'a présenté, hein. Ce n'est pas forcément la salle de sport. Ça peut être le fait d'avoir marché, le fait d'avoir bougé, le fait d'avoir promené le chien. Et puis le temps d'écran. Alors, je ne vais pas vous interroger. Moi, j'en suis à 6 heures par jour, temps d'écran. Ah, c'est beaucoup, hein. La plupart, c'est ma femme qui me fait des vocaux, WhatsApp. Mais le pire, c'est que c'est vrai, hein. Donc, j'écoute ça entre deux patients. Non, j'exagère un tout petit peu, mais pas trop. La principale source d'écran chez moi, ça va être YouTube. Je vais normalement regarder des missions, trucs politiques pour bien me chauffer. Donc c'est, voilà, c'est mon truc, et ça me prend beaucoup de temps. Je peux largement, mais alors largement, trouver ne serait-ce qu'une heure et quart, qui est la méthode 1, qui demande une heure et quart, de sanctuariser une heure et quart pour faire de l'activité, je peux la trouver sans problème. Et pourtant, je ne pense pas avoir un métier qui est tranquillou. On est très pris, je fais entre 40 heures et 50 heures par semaine, je fais 4 ou 5 projets à côté avec Pierre, mais c'est possible, c'est largement possible. La seule chose qui fait que je ne le fais pas encore totalement, c'est la flemme. Je vous dis tout de suite, hein. C'est que c'est plus facile de regarder mon écran sur le canapé que d'aller marcher ou d'aller faire un peu d'activité. Donc la méthode 1, c'est ceux qui peuvent sanctuariser une heure et quart. Donc, dans votre planning, vous avez surligné votre... Oui, une heure et quart par jour. Une heure et quart de la journée, d'un coup. C'est pas toujours le... Enfin, ça dépend vraiment des activités de chacun, notamment professionnelles. Et donc l'idée c'est de faire, vous avez vu qu'il y avait 5 exercices à part la marche, donc une minute, un exercice, y compris le repos. Ça c'est une méthode d'entraînement qui est assez intéressante. Pendant la minute, vous faites vos mouvements, donc les 10 mouvements de pompe, les 10 mouvements de... C'est pour ça que je vous dis, hein, en général ça prend moins de 30 secondes, hein, de faire les mouvements que je vous demande, parce que ça va assez vite. En une minute vous pouvez les faire, ça inclut le repos, ce qui vous motive à aller vite. Et donc finalement, en 5 minutes, c'est fait. Alors évidemment, on met un petit peu de repos entre chaque série, on fait 4 séries au total, ce qui nous fait un renforcement de 30 minutes, 28 pour être précis, et une marche qui est de 45 minutes, comme on l'a vu juste avant. Une heure et quart. C'est pas toujours possible de faire ça, alors moi j'ai développé la méthode 2, celle fractionnée, où vous allez répartir tout ça. Vous allez vous lever le matin, puis vous allez faire 5 minutes, ou 10 minutes, et puis vous faites la même chose le soir, 10 minutes. Honnêtement, mais 10 minutes matin et soir, c'est pas long. C'est possible de trouver 10 minutes matin et soir. Et puis la marche, on la répartit. Si vous pouvez marcher en allant au boulot, ben, ça fait une pierre deux coups. Vous avez matin et soir, ça fait 20 minutes de marche, allez hop, vous avez fait votre marche de 45 minutes. bon, prenez un peu de déo parce qu'effectivement, vous allez peut-être un peu transpirer, quoi. Donc, c'est faut avoir les moyens aussi de faire ça, de pas intoxiquer le bureau, mais ça peut être un moyen de fractionner les efforts. Et à partir de 10 minutes d'exercice, il est démontré qu'il n'y a aucune différence entre le fait de quelqu'un qui fait une sur le poids et la force. Sur le cardiovasculaire, poids et force, on n'a aucune différence entre quelqu'un qui fait 1h15 d'un coup ou quelqu'un qui fait 6 fois 15 minutes. Pareil. Il faut juste plus de 10 minutes d'activité. A priori, c'est ça. Donc les études vont plutôt dans ce sens-là. Et puis après, on a la méthode 3. C'est celle que je préfère. C'est le Grease the Groove, qui a été popularisé par Pavel Tatsouline. Et c'est ce que vous avez fait depuis le début de cette intervention. Vous vous rappelez que je vous ai dit de faire votre exercice, votre nombre de répétitions maximum. Donc en gros, c'était 10. On a pris 10 au hasard. En gros, c'était l'idée de se prendre, pas un exercice trop dur, mais un exercice où vous pouviez faire 10 répétitions. Et puis après, c'était de prendre la moitié de ces répétitions-là et de le faire de manière très régulière. On l'a fait 4 ou 5 fois, je ne sais pas. En fait, cette méthode-là, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle ne nécessite pas d'échauffement et on n'arrive pas à l'échec musculaire. On construit moins de muscles, c'est-à-dire que vous ne serez pas musclore à la fin de cette méthode-là, mais vous aurez autant de force. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on ait de la fonction. Que vous ayez un corps fit ou pas, ça m'est complètement égal, c'est votre problème. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez porter, puissiez vous relever, puissiez ne pas être esclave de son corps, c'est ça. Qu'il soit beau ou pas beau, on sait pas, ça pour le coup, ça ne me regarde pas moi. C'est entre vous et vous-même. Moi, ce que je veux, c'est la fonction. Et cette méthode d'entraînement, elle est assez intéressante. Alors, c'est sûr, pour ceux qui travaillent dans les open space, c'est particulier. Il y a un patient que j'ai discuté avec lui, il me disait « Mais imaginez si je commence à faire ça dans l'open space ?» Ouais, je l'imagine assez bien. Et peut-être qu'au début, vous passerez pour un illuminé. Puis peut-être qu'après, tout le monde s'y mettra. Parce que les gens se diront « Bah finalement, je vois les résultats, il a l'air quand même bien plus costaud, il prend... » Et puis le patron, je disais à des patients bah, « Dites-le au patron. Dites-le au patron, voilà. Là, il commence à avoir mal à l'épaule. Soit vous mettez en place... des pauses, des choses assez régulières pour qu'il puisse faire son activité physique, soit en fractionné, soit en grease the groove, ou alors vous avez un arrêt de travail dans 6 mois. Ah, les patrons peuvent être sensibles à ça. Hein. Et moi, je sais que mon assistante, elle bosse avec moi, elle fait une journée continue 8h-16h, à 16h, elle va à la salle après, ça lui permet de débloquer du temps. Moi, c'est pareil, ça me permet de débloquer du temps après 16h pour aller marcher un peu. L'idée, c'est que vous avez 3 méthodes qui sont très très différentes les unes des autres. 1 et 2, c'est plus des entraînements classiques. Il faut un peu d'échauffement, c'est certain, pour ne pas se blesser. Vous allez créer du muscle, plutôt par destruction musculaire. Il faut quand même rester dans le... Il ne faut pas vous blesser, donc il faut garder, c'est la diapo juste après. Mais cette méthode-là, ces méthodes-là, la 1 et la 2, c'est le classique, c'est ce qu'on voit partout. Ça vous donne de la fonction, ça vous donne aussi plus de masse musculaire. Par contre, je ne sais pas, sur l'ensemble du muscle créé, vous aurez, c'est complètement arbitraire, hein, mais 60 ou 70% de muscles connectés à votre cerveau. Sur la troisième méthode, vous aurez du muscle en plus, mais pas beaucoup, beaucoup, moins que dans les 1 et 2, mais vous aurez 80-90% de muscles connectés. Ça améliore la connexion entre le cerveau et le muscle. Et je pense que c'est une des meilleures méthodes, et c'est pour ça qu'on l'a conseillé aux personnes âgées, parce que ça vous permet, bah, d'une part, de répartir. Moi, j'adore ça. Je ne suis pas fatigué, je ne transpire pas, je peinard, et puis j'ai l'impression de faire du sport. Mais ce n'est pas qu'une impression. Ça fonctionne bien, et puis rapidement, quelques jours après avoir commencé, vous commencez déjà à avoir des exercices plus faciles. Pourtant, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas triplé de volume, mais simplement votre cerveau, si vous lui dites de faire quelque chose, il va le comprendre comme quelque chose d'indispensable. Pour ça qu'un violoniste, un musicien, il va faire des choses avec ses doigts que personne n'est capable de faire s'il n'a pas l'entraînement. Parce que son cerveau, pourtant, il n'a pas des doigts qui sont musclores. Ils ne sont pas plus gros, pas plus. Ils sont plus rapides, plus précis, parce que la communication entre le nerf et le muscle jusqu'au cerveau est optimisé. C'est des super conducteurs. Là où, chez nous, bah, c'est plus le départemental, quoi. Donc, c'est vraiment ce principe-là qu'on va chercher dans la méthode 3. Et je la trouve à titre personnel, assez intéressante, parce qu'elle ne, elle ne nécessite ni échauffement et ni trop de souffrance. J'aime pas souffrir, donc je fais ça moi. Cette fois dans la journée, c'est complètement arbitraire, c'est entre 5 et 10. Il n'y a pas de... J'ai mis 7 parce que c'est un chiffre que j'aime bien. Progresser en douceur. Donc l'idée, c'est ça. Pour les méthodes 1 et 2, vous avez vu, hein, donc dans la progression que je vous ai présentée tout à l'heure, vous avez la méthode très facile, et puis petit à petit, vous allez avoir des méthodes plus compliquées. Donc la méthode facile, on va l'appeler N, le niveau N. Et puis la méthode d'après, par exemple, vous êtes en traction australienne, et puis vous êtes comme ça pour l'instant, puis vous décidez d'incliner un peu plus. Bon, et bien ça sera le N plus 1, le fait d'incliner un peu plus. Et bien sur un mois, vous allez avoir la première semaine où vous allez faire des séries. On a vu qu'il y a 4 séries, soit en fractionné, soit 4 séries en une séance. Et bien ces séries-là, vous allez faire que ça. Vous allez faire que ces séries-là. La semaine suivante, vous allez faire parmi vos séries quotidiennes, une série où vous allez vous mettre un peu plus bas, et les autres séries, vous allez les faire comme la semaine d'avant, etc., en avançant comme ça. Sur un mois, vous avez progressé d'un niveau. Alors, si vous ne progressez pas d'un niveau, ce n'est pas grave. Il faut rester au niveau où vous êtes là. Il faut toujours... Mais c'est dans l'idée d'aller en progressif. Et vous avez compris que ce n'est pas en un an, enfin c'est encore moins en un mois, qu'on arrive à l'objectif. C'est en des années, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, l'idée, c'est de changer notre logiciel, de commencer à demander à notre corps de bouger, d'être fonctionnel. Et la méthode 3, alors c'est là où c'est pour ça que j'en ai fait ça tout à l'heure, c'est parce que le calcul n'est pas simple. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des ressources comme ça, parce que dans toutes les ressources que j'ai, c'est très approximatif. Il disait, pour cette méthode-là, vous prenez la moitié de ce que vous savez faire et vous le faites régulièrement. D'accord, mais quand on progresse, on fait comment? Parce que au bout de la moitié de ce qu'on sait faire, si on en fait trop, on va se fatiguer. Parce que si vous faites, vous savez faire 10 pompes, si vous faites 10 pompes dans la journée, 7 fois par jour, ça commence à causer sur les épaules. Donc vous allez vous blesser. Mais peut-être que les 5, ce n'est pas suffisant. Vous avez progressé suffisamment, et 5, ce n'est pas suffisant. Et donc vous allez maintenir, vous allez stagner. Donc comment est-ce qu'on progresse? Comme ça. Je fais ce petit calcul-là. Pareil, c'est arbitraire, mais je pense qu'il fonctionne pas mal. Le RM, c'est les répétitions maximales. Et vous allez vous tester, en fait. La semaine 1, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous avez choisi votre exercice, vous avez dit, bon, bah, ça, je peux en faire 10 ou 20, en fonction de ce que je vous avais noté avant. Je peux faire les répétitions. Donc, je vais faire la moitié de ces répétitions-là, 7 fois par jour. C'est ce qu'on a fait, on en a fait déjà 3 ou 4. Il vous reste l'après-midi pour faire le reste avec Gécolien. Donc, ça, vous ferez ça, c'était la semaine 1. En semaine 2, ou en semaine 3, ou en semaine 4, quand vous vous sentez prêt, vous testez l'étape du dessus. L'étape du dessus, j'étais par exemple sur les pompes à genoux, et ben je vais tester les pompes normales. Si en pompe normale, j'arrive à plus de la moitié de l'objectif qui est de 20, je vous rappelle, et ben dans ces cas-là, vous faites la moitié de ce que vous savez faire. C'est la deuxième ligne. Donc je peux faire 7 pompes normales, j'ai progressé, ben du coup j'en fais 3, 7 fois par jour. Et puis la prochaine fois, je vais arriver... en faire un petit peu plus. Je pourrais en faire 9 ou 10. Et là, je ferai 5, 7 fois par jour. Vous voyez un peu le principe ou pas? Ou c'est flou? Et puis la difficulté, c'était quand on n'y arrivait pas. J'arrive à faire que 4 pompes, mais du coup, je n'arrive pas à la moitié de l'objectif final. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux faire entre 50 et 70% de l'étape d'avant. Ce qui nous permet quand même de progresser, mais sans nous blesser. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait, et vous voyez que finalement ça ne vous a pas pris beaucoup de temps, et vous avez déjà fait la moitié du renforcement musculaire d'une journée. C'est pas mal. Alors, il faudra faire les autres exercices aussi. Hein. Alors, on va faire un petit jeu. On va mettre un peu en relation maintenant alimentation et exercice. Docteur, je ne mange rien. Ce que j'entends tout le temps. Alors là, j'aimerais que vous me disiez, je vais le noter, je vais passer au clavier. À quoi correspond à votre estimation du nombre de kilocalories pour chaque ligne et le nombre de minutes de marche qu'il faut pour évacuer ce nombre de kilocalories et le nombre de pompes qu'il faut pour évacuer ce nombre de kilocalories, sachant qu'une pompe, c'est environ 0,5 kilocalories. Alors, en soda sucré, qui a une idée du nombre de kilocalories d'un soda sucré ? 105 ? 140 ? Allez, on met une approximation entre les deux ? Qui dit mieux ? c'est du light ? Dit normal. Allez, tac. Une approximation entre les deux, donc du coup on serait plus à 120. Ok. On fait déjà les kilocalories, ça vous va ? Le Ferrero Rocher que j'ai pu, on me l'a retiré. 70 ? Ben non, mais c'est... Pardon, c'est juste pour être sûr. Tu disais 55 ? Allez, on va faire l'approximation entre les deux, 60. Hop. Une tartine de Nutella, une cuillère à soupe. Avec le pain, avec 30 grammes de pain. 135, 200, on fait une approximation entre les deux. Allez, 170. Le croissant. 300. Un éclair vanille ou chocolat. 280. 300. Allez, 300. Une tranche de pain. 310. 70, 100. 50, bon bah 70 c'est le milieu entre 50 et 100, c'est bien, à peu près. Alors 100 grammes de lentilles cuites, 60, 80, allez on va les mettre entre 65, j'ai entendu un peu entre 50 et 80, un fruit, une pomme, 70, 30, 40, 20, allez on va mettre 50, c'est à peu près le milieu de ce que vous m'avez dit là. Des poireaux, cuits à la vapeur, hein, y a pas d'huile. Hein. 15, 30, allez on va mettre 20, c'est entre les deux. Un verre de lait entier. Je crois que c'était du 200, ouais, 200. Allez, on met 90 pour faire un entre deux. Alors, à votre avis, combien de marches rapides en minutes il faut pour évacuer tout ça ? Après, il y aura des règles de 3, on va en faire quelques-uns. Alors, pas tout, hein, c'est-à-dire, pour évacuer un soda sucré, combien il faut marcher ? 15 minutes ? Okay. Alors, on parle de marche rapide, effectivement, hein, c'est pour ça, tout ça, c'est des approximations, c'est pour s'amuser entre nous, mais c'est pour vous montrer que on mange beaucoup. Là, pour un Ferrero Rocher. La moitié. Ouais, donc après, forcément, vous allez faire les règles de 3. si vous êtes logique, effectivement, ça serait intéressant. Et le nombre de pompes, alors 30. Là, on a 230. Ça fait un grand écart. Allez, on va mettre 100. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps parce que je pense que vous avez compris le principe. Voilà les vrais chiffres. Alors oui, le croissant, il a maigri entre-temps. Il est passé de 300 à 200. Mais c'est les joies des sources. J'ai pas la même source entre les deux, entre le croissant et la nouvelle. Là, j'ai deux sources différentes. Mais grosso modo, on est là-dedans. C'est pour vous dire que quand vous mangez des poireaux, il faut marcher entre 7 et 8 minutes pour évacuer. Alors l'idée, c'est pas de tout compenser, hein. L'idée, c'est juste de se rendre compte que lorsqu'on prend un croissant ou un Ferrero Rocher, et c'est une unité, hein, c'est 12 grammes, et ben derrière, vous devez assumer le fait d'avoir mangé ça. C'est pas magique. Il n'y a rien de magique, en fait. Mais c'est juste qu'on se dit que les aliments ultra transformés, l'apport que ça donne, c'est délirant. C'est vraiment délirant. C'est des apports qui sont énormes par rapport à nos besoins. Donc c'est super pour le côté réconfort, il faut, quand on est ensemble, quand on est en communauté, faire un bon resto, faire du contact social, quand on a un petit peu la déprime, manger un petit truc un peu... Mais si vous êtes tout le temps déprimé, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc l'idée, c'est que faudra trouver d'autres solutions pour la déprime. Mais l'idée, c'est de vous montrer que c'est on mange et on mange beaucoup et on mange très riche. Alors peut-être qu'en quantité, vous n'avez pas l'impression de manger beaucoup, c'est que deux Ferrero Rocher, moi je ne suis pas rassasié avec, mais niveau de la proportion, on est avec deux, je suis quasiment sur un tiers de mon repas, et c'est que de la mauvaise, enfin c'est beaucoup de mauvaise graisse et beaucoup de sucre. Donc je suis sûr que 3 heures plus tard, j'aurai mon pic de glycémie, j'aurai très faim et je serai très fatigué. Donc j'aurai envie de remanger. Est-ce qu'il y avait des questions sur ça ou ça va ? Alors c'est les 7 fois les 5. Du coup. Donc 7 fois les squats, 7 fois les pompes, 7 fois le circuit. En fait, c'est les 5 exercices 7 fois. On peut faire, mais du coup, ça veut dire qu'il y aura 7 fois 5 périodes à trouver. Donc ça veut dire que toutes les 10 minutes, il faudra faire quelque chose, ce qui est possible. Entre chaque patient, c'est un projet, je l'ai pas encore, je l'ai essayé. Et quand je suis à la bourre, j'arrive pas. Et comme je suis souvent à la bourre en ce moment, j'arrive pas. Mais c'est moi, entre chaque patient, j'essaie de faire un ou deux exercices. Ce qui fait que toutes les 10-15 minutes, je fais quelque chose. Et en une heure et demie, j'ai fait mes 5 exercices. Mais ça compte comme une fois, du coup. J'ai fait qu'un de chaque. Il faut le faire entre 5 et 10 fois pour la méthode-là. Et vous pouvez mixer les deux méthodes. Ça c'est pas exclusif. On va vite passer sur le sommeil. Il y a 3 S. Alors là, pour le coup, ces 3 S, on va les passer rapidement parce que ça nécessite, c'est beaucoup plus aléatoire. Le sommeil, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Le sommeil est dépendant de plein de facteurs. Votre journée, la lune, ce que vous avez mangé, on parlait tout à l'heure, effectivement, il y a certaines personnes qui recommandent de ne pas manger de sucre après 17 heures. Le sommeil est très complexe. La médecine du sommeil, c'est une spécialité à part et je n'ai vraiment pas les compétences pour vous présenter le sommeil de manière très juste. Donc je ne vais pas m'y aventurer. Je vais vous juste proposer des conseils. C'est que, d'une part, et ça c'est partout, l'alimentation, ce que vous mangez, et l'activité physique, c'est la base du sommeil. C'est, voilà, dans toutes les études, ça sort, c'est comme ça. Vous faites de l'activité physique, vous aurez un meilleur sommeil. Vous mangez bien, vous aurez un meilleur sommeil. Ensuite, on est très individu dépendant. Donc la durée, c'est recommandé entre 7 et 8 heures. Il faudra certaines personnes 12 heures et d'autres 5. C'est individu dépendant. Il faut trouver votre durée à vous et puis s'y faire. Parce que ça, c'est votre corps qui vous le demande. Vous n'y pouvez pas grand-chose. Les horaires réguliers, ça sort à peu près partout dans toutes les études, c'est d'avoir un horaire fixe de coucher, un horaire fixe de lever, y compris pendant les vacances, pas de grasse matinée, ou essayer d'éviter. Parce que ça dérègle le système circadien. L'environnement, câble sombre, frais, voilà, ça c'est une chambre standard. Et puis limiter alors la caféine, les écrans, le soir, ça maintient en éveil énormément. Donc ça c'est une question d'hormones. Donc c'est à éviter, surtout si vous avez des problèmes d'endormissement, une heure avant le coucher, c'est d'éteindre les écrans, quoi. Et puis les repas trop riches en soirée. Ça peut vraiment déclencher une fatigue, enfin, ouais, un inconfort qui va vous empêcher de dormir ou de bien dormir. Par contre, le sommeil, c'est vraiment parfois des problèmes médicaux bien plus profonds que ça. C'est pour ça que si votre sommeil n'est pas bon, il faut consulter, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être en lien. Alors, le surpoids, pour le coup, est un facteur de risque d'apnée du sommeil, vous le savez. L'apnée du sommeil, c'est compliqué à gérer. Et j'ai beaucoup de patients qui, en perdant du poids, ont mis au placard leur machine. Donc ça, ça peut être vraiment intéressant. Le social. Ecclésiaste 4, 9, 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. C'est ce qu'on disait, hein, ça a été un des leviers qui a été évoqué, le fait d'en parler à quelqu'un et puis qui vous encourage et qui vous entraîne en fait dans la progression. Et donc le social, c'est à la fois un levier, comme on a dit, et c'est aussi un objectif. Ça a ce double effet. Donc les leviers sociaux, on en a parlé, puis l'objectif, c'est se rendre prêt à servir. C'est une des devises chez nous, les scouts, c'est se rendre prêt à servir. Et Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Et j'insiste sur la joie, en fait. On a parlé beaucoup hein, d'alimentation qui était une sorte d'antidépresseur. Mais le social, l'Église, en particulier, et le social en général, et le fait d'être joyeux, le fait de rire, le fait de, d'avoir de la joie, c'est vraiment un remède à part entière. Je me le plaçais là parce que je ne savais pas où le placer, mais il était bien. Le spirituel. Proverbe 4, verset 20-22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. » Donc en fait, c'est un peu, je vais me tirer une balle dans le pied, mais au final, c'est Dieu qui décide. Vous pouvez être en mauvaise santé physique par rapport à l'estimation qu'un médecin pourrait donner et vivre très longtemps, parce que c'est Dieu qui va décider de ça. Cependant, Dieu a mis des règles et des lois, et je crois que prendre soin de son corps, c'est une bonne chose. Et ça fait partie de la volonté de Dieu pour nos propres corps. Après, c'est entre vous et vous-même, et entre vous et Dieu. Là-dessus, je ne vais pas m'aventurer, je n'ai pas les compétences. Donc le spirituel, mon âme bénit l'Éternel, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Et si vous avez des difficultés à faire les activités que je vous propose, alors il y a peut-être un sujet de prière aussi. Ce n'est pas forcément une fatalité, mais être l'esclave de son corps n'est peut-être pas le plan de Dieu pour vous. Peut-être que vous ne pourrez pas changer ça, hein, j'en sais rien, mais c'est peut-être un sujet de prière aussi. Et puis, donc, on a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, en 2016, qui nous montre quelque chose d'assez intéressant. C'est les femmes qui allaient au service religieux, donc plus d'une fois par semaine, avaient environ 33% de risque de mortalité en moins que celles qui n'y allaient pas. Et une fréquentation hebdomadaire était associée à environ 26% de risque de décès en moins. Plus vous allez faire une activité religieuse, ils appellent ça comme ça dans l'étude, moins vous avez de risque de mourir. Alors, ils n'ont pas dissocié les religions. Dans cette étude-là, on pensait bien, ça serait trop touchy niveau étude. Donc, ils ont englobé toutes les religions, mais on a une majorité de chrétiens dans cette étude-là parce que c'était aux États-Unis. Donc, la grande majorité des femmes qui ont été étudiées sont chrétiennes. Les meneurs de l'étude justifient en tout cas cette corrélation. Alors, ce n'est pas une preuve... commencez pas à dire « je vivrai plus de 33% parce que je vais à l'église ». C'est ce qu'on appelle une association. Ils ont remarqué ça et ils essaient de l'expliquer. Ce n'est pas une preuve, c'est juste une association qui est intéressante et que j'ai mis là. Ils expliquent ça sur un soutien social, éventuellement. Moins de dépression, moins de tabagisme dans ces milieux-là. Plus d'optimisme et un sens à la vie. Bon, ils n'ont pas mis Dieu, mais n'empêche que c'est effectivement des fruits qu'on peut retirer de l'Église, en fait. Et pour moi, la conclusion, c'est 3 Jean 1-2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Je trouve ça assez intéressant que Paul ait dit ça, y compris pour la santé. J'en ai parlé à Fabien, que vous avez eu la chance d'écouter il y a peu de temps chez nous. Il m'a sorti des versets auxquels je ne m'attendais pas du tout. J'ai pas tout mis, mais il y en a un qui m'a intéressé dans les chroniques. Et donc, au début, je vous ai mis un verset sur le fait qu'on était le temple du Saint-Esprit. Et dans les chroniques, il parle de la manière dont les sacrificateurs purifiaient le temple. Et tous les ans, ils le faisaient. Tous les ans. Et ils emmenaient les déchets, enfin tout ce qu'ils trouvaient impur dans le temple, dans le cédron, qui est l'équivalent un peu... qui servait à l'époque un peu de fosse septique. C'était vraiment tout ce qui était les déchets évacués là. Et le parallèle avec notre corps est assez intéressant. C'est que pour moi, il y a vraiment une idée d'aller, par amour pour Dieu lui-même, honorer notre corps en pratiquant ce que la société nous a retiré. À l'époque, comme je vous disais, il ne se posait pas la question, parce que l'alimentation n'était pas aussi diversifiée que nous. Je pense qu'ils avaient une alimentation... ils ne se posaient pas la question de leurs apports, en fait. C'était quelque chose de plutôt... une cuisine traditionnelle. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas de pommes de terre, ils n'avaient pas de tomates. Ça, c'était des Amériques. Il y avait beaucoup moins de choix, beaucoup moins de tentations aussi, j'ai envie de dire. Il n'y avait pas de produits ultra transformés. Beaucoup étaient une alimentation beaucoup basée sur les poissons à l'époque, hein. Beaucoup, beaucoup. Donc, les bœufs, tout ça, c'était très réservé pour tout ce qui était travaux du temple, justement. Donc, Et il marchait, il bougeait, il faisait énormément de travaux physiques, il y avait très peu de travaux intellectuels à l'époque. Ils étaient tout le temps dans le mouvement. Donc ces questions-là, ils ne se les posaient pas, mais nous, pour nous, c'est un vrai défi d'avoir une société où on a tout en trop et en même temps pas le temps, ou du moins le sentiment de ne pas avoir le temps. Donc c'est un équilibre que j'ai essayé d'un tout petit peu importer aujourd'hui, j'espère que je n'ai pas été trop flou. Mais à travers ce protocole-là, c'est d'essayer, en tout cas, à mon humble niveau, de vous réconcilier avec l'alimentation et avec l'activité physique. Sachant que si vous ne faites pas tout le temps, ce n'est pas grave, encore une fois. Si l'assiette que je vous ai présentée, c'est qu'une fois par jour, ben c'est déjà très bien. Et une fois par semaine, c'est aussi très bien. Mais petit à petit, ben, peut-être ça va développer chez vous un nouveau goût. Des papilles qui vont se rééduquer au goût du terroir, quelque chose de moins transformé, et puis une envie. Moi, je sais qu'avant de commencer ce programme-là, j'étais un fada de notre chulata, l'équivalent du Nutella. Là. Mais un fada. Vous voyez, le pot, ça ne durait pas bien longtemps. Et donc, avec ce programme-là, je me suis mis au beurre de cacahuète, que je n'aimais pas du tout, à la base. Pas, mais vraiment pas. Mais voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est quand même mieux pour la santé. Et maintenant, j'ai essayé hier soir de retoucher au notre chulata, c'est plus dur. Parce que c'est trop sucré. Du coup, j'en ai, voilà, par plaisir, ça m'a fait plaisir, hein, je ne vais pas le mentir, mais je n'ai pas voulu plus qu'une tartine classique. Quoi. Alors qu'avant, c'est très dur à arrêter. Quoi. Et je pense qu'on peut se rééduquer. Rééduquer ses papilles, rééduquer son cerveau à tout ça, en fait. Et puis avoir peur de bouger, même au travail, même dans plein de situations. Et je pense que vous pouvez aussi être un exemple pour les autres comme ça. Non, mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? On te voit en train de te faire des pompes, t'es un zinzin, quoi. Oui, mais j'ai fait une formation, et puis je fais le Grease the Groove. Ah, c'est quoi le Grease the Groove ? Ah, ben on le fait, et puis viens avec moi, on le fait. Vous serez deux. Puis petit à petit, ben, peut-être que le patron va voir, oh, punaise, ça marche bien. Quoi, le tai chi en Asie, c'est très pratiqué, mais c'est culturel, mais c'est vraiment ça. Alors c'est plus des étirements, des mouvements, mais sur les muscles profonds. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous apporter bien humblement. Et puis on va faire une dernière, s'il y a des questions, peut-être passer une dernière fois, puis on aura clôturé. Pour les siestes ? Eh ben, alors pour le coup, si tu viens du Sud, tu as besoin de siestes. Les siestes, en fait, il n'y a pas de... Alors, je n'ai pas trouvé... Alors, je n'ai pas non plus creusé le sujet, comme je disais. Hein, loin d'être un spécialiste du sommeil. Mais les siestes peuvent vraiment être un besoin dans certaines personnes sur le plan physiologique. Elles peuvent compenser des troubles du sommeil aussi. Le fait d'avoir un trouble du sommeil qui est un peu latent et qui est difficile. En attendant que ça aille mieux, on peut avoir un bénéfice. La règle, il me semble, et ça, bon, c'est plus des cours que j'ai en tête, mais je n'ai peut-être pas à jour, mais de ce que j'en sais, c'est qu'il ne faut pas que ça excède un certain temps. Parce qu'après, si tu passes dans un sommeil plus profond, tu vas avoir du mal. Donc plutôt entre 15 et 20 minutes, si je ne dis pas trop de bêtises, on est plutôt ça. Au-delà, tu risques de tomber dans un sommeil plus profond, déjà très fatigué entre le vent, et que ce soit plus contre-productif qu'autre chose. Mais j'ai pas de j'ai pas. Il me semble que au niveau scientifique, on est plutôt ni pour ni contre. C'est vraiment en fonction des gens, quoi. Si ça te fait du bien, faut le faire. Eh ben, en fait, le sport à l'échec, ça va être sur les phases de test sur la méthode 3 tout le temps. Ben, disons que tu vas si tu vas jusqu'à l'échec, tu vas détruire du muscle. En fait, tu c'est le but. Tu détruis du muscle, donc tu vas en réponse, le corps va en créer. Donc c'est ça le l'échec musculaire. Il est visé pour cette raison-là. Je suis pas entraîneur de sportif ni de encore moins de sportif de haut niveau. Je pense que dans certaines situations, c'est complètement nécessaire parce que tu vas devoir atteindre des performances. Et donc pour gagner en musculature, gagner en performance, tu vas devoir arriver à l'échec. Et notamment sur des répétitions très chargées. Par exemple, on pourrait envisager, une fois que vous maîtrisez parfaitement les tractions, ben vous allez stagner. Donc si vous voulez aller encore plus loin, il faut charger, et ça peut passer par un stade de musculation à l'échec. Il ne me semble pas, mais c'est vraiment là pour le coup, c'est vraiment spécifique, et je ne pense pas être la meilleure voie, mais il ne me semble pas que ce soit une méthode d'entraînement qui soit durable trop longtemps. Après, je ne sais pas s'il y a des sportifs ici qui peuvent me corriger, mais l'échec musculaire recherché à chaque entraînement, à chaque fois, pas certain. Je pense qu'il faut... Oui, c'est ça. Puis, tu vas augmenter tes lactates, ta récupération va être plus lente. Donc je pense que bien suivi, et dans certains cadres, ça a complètement du sens, mais là, vraiment, on sort du cadre, on passe vraiment dans le sport, et c'est là que j'appelle ça le sport. Et là, je pense pas être la meilleure personne pour t'aider là-dessus. Bon, ben voilà, je crois que c'est tout bon. Merci en tout cas, merci de votre écoute.